good, I would not. I feel good, I knew that I would not. So good, so good, I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est I Feel Good. On papotait avec mon invité, on a oublié d'en faire l'introduction. Dites donc, I Feel Good, vous le savez, c'est 30 minutes pour partager les ondes positives d'un invité. Madame, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui je reçois l'évêque de Nancy et de Toul. Alors, un évêque, soit ça inspire le respect, soit ça peut faire peur, soit ça peut même mettre en colère. Prenons le temps dans I Feel Good de rencontrer Pierre-Yves Michel.
So good! So good, I got you.
Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Je me
permets
le prénom parce que c'est une autre forme d'émission que l'on propose dans I Feel Good, c'est de rencontrer un homme ou une femme qui nous partage ses ondes positives, son envie de bouger. J'ai envie de dire pour vous, puisque vous êtes prêtre, évêque, quelle est votre joie de croire pour parodier un bel ouvrage d'un jésuite, le père Varillon, qui disait « joie de croire, joie de vivre ». Quelle est votre joie de croire à vous ?
Ah, ma joie de croire, c'est en fait, c'est cet émerveillement quotidien de l'amour de Dieu qui se révèle dans des petites choses, dans les rencontres, dans quelquefois aussi l'accompagnement de personnes en souffrance ou en révolte aussi. C'est beaucoup de rencontres. Je crois que la foi chrétienne, elle est vraiment rencontre. Il suffit de voir comment Jésus passe son temps. Enfin, les évangiles racontent plein de rencontres avec des enfants, des malades, des gens croyants, des non-croyants. La foi se fait rencontre, on peut dire quelquefois la foi se fait conversation, quoi. C'est à mon avis, c'est ça aussi la vie de l'Église, hein.
Alors, on va en parler de l'Église, de toutes ses facettes. On parlera de tout, il n'y a pas de problème dans la mesure du temps. On parlera de tout, on ne cachera rien, mais vraiment, Pierre-Yves, il a donné sa vie dans un célibat, dans un engagement pour un Dieu, n'est-ce pas aujourd'hui quelque chose d'incroyable, d'incompréhensible même ?
Alors en ce moment, je suis en train de lire les lettres des adultes qui vont être baptisés à Pâques. Donc ça en fait un paquet là, et ils sont plus d'une centaine, et je ne me lasse pas. Et ça me renvoie vraiment à ce choix, comme vous dites, hein, ce choix de donner sa vie. Mais parce que je sens vraiment que le sens de toute vie, quelle qu'elle soit, de toute existence, c'est le don. On n'est pas propriétaire de notre vie, nous l'avons reçue gratuitement, dans l'amour de nos parents. De découvrir que, en fait, le véritable sens, la véritable joie, ce qui donne de l'énergie, c'est de se donner. Et c'est pour ça que les rencontres sont importantes. Donc moi, je pense que devenir disciple du Christ et à un moment aussi découvrir qu'on est appelé à être au service de l'annonce de cette bonne nouvelle, voilà, c'est ça qui donne le sens et qui donne le sens à ce célibat qui est un célibat choisi par amour. Pas comme un vieux garçon qui se protège, qui se tient un peu à distance. Mais non, c'est peut-être un célibat pour la rencontre. Pour la rencontre et le dialogue, de manière très libre, du coup. C'est vrai que je suis assez étonné de la variété des gens. Et d'ailleurs, vous êtes aussi un bon exemple. Merci de votre invitation.
Mais alors, joie de croire et libre de croire. J'avais envie de vous interroger sur ces deux facettes, parce qu'aujourd'hui, pour tout vous dire, je dis à deux, trois personnes, j'interviewe l'évêque, puis à deux, trois, sous forme de boutade, me dire, si tu peux négocier notre entrée au paradis, notre, hein, parce qu'il me mettait dans le paquet, c'était pour vous situer, notre entrée, voilà. Il y avait une notion de, on achetait des indulgences avant, enfin, on n'était pas libre. La religion était quand même un poids massif sur la société, sur les façons de penser, et la liberté était bien loin. Aujourd'hui, votre liberté de croire, elle s'exprime comment elle est vécue, comment elle s'appréhende comment.
C'est vrai que peut-être que j'ai eu cette chance, d'être toujours dans un climat de liberté. J'ai jamais eu le sentiment à aucun moment que sur la question de la foi, on m'ait forcé. Là, j'en suis gré à mes parents ou à l'ambiance aussi au collège où j'étais. J'ai toujours senti que de toute façon la foi n'est pas un paquet comme ça qu'on se passe de main en main, c'est un chemin, c'est un chemin où on va cheminer avec l'un, avec l'autre. J'ai énormément reçu de profs, de prêtres, de plein de monde, et je continue à recevoir, et j'ai vraiment le sentiment que la conviction profonde que l'acte de foi, de toute façon, c'est l'acte le plus libre qui soit. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire et on n'a pas le droit non plus d'empêcher quelqu'un de croire. C'est, quelle que soit la religion, quel que soit l'itinéraire, ça ne peut être qu'un acte libre. Et dès qu'il y a... mais la vraie liberté, c'est-à-dire qu'à certains moments, il y a des exigences aussi. Et une fois qu'on a pris un engagement, on essaye d'avancer dans une fidélité. Donc, liberté ne veut pas dire fantaisie. Ça ne veut pas dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de parler à Dieu. Ben non, demain, je n'aurai pas envie. Non, pour moi, je me sens grandir dans une liberté. Et peut-être encore plus, une fois que j'ai eu dit ce oui... Ce oui pour devenir prêtre, là, c'était il y a 35 ans maintenant, 33, parce que c'était 91, ma ordination de prêtre. Mais j'ai l'impression que je suis plus libre maintenant même qu'avant d'avoir pris l'engagement, quoi.
Alors, vous dites la liberté, mais pas sans cadre, tout ça, ça nous amène rapidement à l'église. Mais on va, avant d'aller à l'église, vous êtes quand même spécial, mon père, quand même. Parce que vous dites, j'ai fait le choix du don oui. de la vie. Donc, c'est pas du tout le monde contemporain. Enfin, j'ai envie de rester un tout petit peu dans cette approche du monde d'aujourd'hui qui répond pas à cette question.
Alors, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, mais peut-être que c'est pas propre à notre époque. Il y a eu beaucoup d'époques comme ça, on voit beaucoup de gens voient la vie comme un moment où il ne faut pas trop de contraintes et où il faut simplement se dire c'est éphémère, donc il faut en profiter au maximum, etc. Alors peut-être qu'effectivement, mais ça moi j'ai l'impression que c'est un peu l'écume, parce que dès qu'on rentre dans un dialogue, dans une rencontre un peu plus profond avec qui que ce soit, des jeunes, des moins jeunes, des gens de toutes sortes. En fait, on descend à un niveau beaucoup plus profond et où cette vision un petit peu superficielle d'une vie, un moment éphémère de jouissance, eh bien, en fait, c'est pas ça. Il y a des attentes profondes d'être aimé, de pouvoir aimer à son tour, d'être reconnu, d'être reconnu pour ce qu'on est. Donc, je pense que les recherches profondes, elles apparaissent pas toujours. Et je suis sûr qu'à la radio, ici, vous le sentez bien. Il y a du superficiel qui peut être léger, qui peut être... et puis, dès qu'on descend, c'est là qu'on arrive au don. Parce que finalement, le désir de quelqu'un, il se trouve dans un amour reçu et un amour donné. Je sens que la vie, elle prend son sens là. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Et moi, je n'aime pas non plus une vision négative du monde d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a énormément d'attentes. Peut-être aussi de déception, on se cogne un peu, il y a des peurs là, autour du réchauffement climatique, et c'est ça qui met souvent des barrières. Mais quand on creuse, je pense qu'il y a des attentes beaucoup plus profondes, et c'est peut-être ça, dans le ministère, dans le service que j'exerce, que j'ai la joie de voir.
Alors justement,
et d'entendre.
Je prends votre devise à la lettre, vous dites votre devise, hein, quand on est nommé évêque.
Oui, on choisit une devise.
Évêque, plus exactement, voilà. On choisit une devise et la vôtre, c'est « viens dehors ».
Exactement.
Je reste dans le sujet, le don pour les autres, où on va rechercher un sens plus profond dans la vie, en dehors de l'Église, en dehors de l'institution que vous représentez. Où est-ce que vous détectez ce don pour les autres? Où est-ce que vous détectez, dans quelle institution ou dans quelle personnes, quels sont ceux qui vous font dire tiens, sans forcément, avec votre foi, vous y voyez ouais. peut-être le signe de Dieu, mais vous, où est-ce que, en dehors de l'Église, en dehors de cette institution, vous sentez, vous percevez ce goût du don de la vie?
Eh ben, j'aime souvent ressortir le soir quand j'ai eu une journée de rendez-vous, de rencontre ou des réunions où on est assis, voilà. J'ai besoin de marcher et donc ça m'arrive souvent de croiser des gens qui dorment dans la rue et d'avoir un bout de dialogue avec eux. Bon, une pièce, mais pour moi la pièce c'est pas ça le plus important. Il y a peut-être déjà un moment de. Et donc là, je sens que la personne, elle attend de la chaleur, elle attend de, même aussi de la manière dont les personnes nous remercient. J'ai fait aussi l'expérience autre jour d'une maraude, c'était juste le dimanche avant Noël. On a passé une heure et demie à préparer des sandwichs et après on les a distribués là, vers Saint-Sébastien, dans le cœur de Nancy. Là où, ces dialogues avec ces personnes, alors de toutes sortes, hein, il y avait alors, le niveau. C'est vrai que le niveau de la foi, elle arrive assez vite, hein, que ce soit des musulmans, que ce soit des non-croyants ou des chrétiens, on arrive assez vite parce qu'ils dévoilent leur profondeur. Mais. Comme vous dites, ce vient dehors que pour moi, j'ai trouvé dans l'Évangile, quand Jésus appelle Lazare, qui était un mort, qui était son ami et qui était mort, les deux sœurs pleuraient, et il l'appelle à la vie comme un signe qui annonce que lui, il sera à un moment, après sa mort, ou quand il a été rejeté, vainqueur de la mort. Donc, j'ai vraiment souvent cette devise dans mon cœur et j'essaye au maximum de ne pas rencontrer que des gens qui sont déjà convaincus et qui ont. J'aime beaucoup ces dialogues et que les gens puissent exprimer la profondeur de leur cœur, de leurs attentes.
Dans d'autres, on voit avec les SDF, et pour tout vous dire, à Ifigou, la semaine dernière, c'était Rémi Bernard. Rémi Bernard, c'est le directeur de Accueil et Réinsertion Sociale, l'association qui gère la grande pauvreté à Nancy, justement. Et on en a parlé, justement.
Ben, j'imagine, oui.
Dans d'autres domaines, dans la science, dans la médecine, dans l'environnement, est-ce qu'il y a des. C'est contemporanéité alors, qui nous interpelle.
C'est vrai que ayant été évêque à Valence dans la Drôme pendant 9 ans, moi qui étais plutôt un urbain parce que avant j'avais fait mon ministère à Lyon, j'ai découvert ce monde rural, ce monde des agriculteurs, ce monde du bio parce que la Drôme c'est le premier département bio de France, hein, et j'ai été très touché par ça. Et là du coup, j'ai dialogué avec des gens qui n'étaient pas sur le référentiel chrétien. Mais pour lequel il y avait cet émerveillement devant une création qui est fragile, qui est qu'on a un peu bousillé souvent, mais pour lequel on peut prendre soin. Donc c'est vrai que je le retrouve, l'ai retrouvé un petit peu ici en Meurthe-et-Moselle avec quand j'ai fait la messe avec les agriculteurs au mois de septembre pour le concours de labour, mais je suis aussi un passionné de lecture, donc j'aime beaucoup lire des livres, des romans, et je pense que dans la littérature, je touche aussi des domaines qui sont très éloignés de, parce que je lis pas que des livres de spiritualité. Tout récemment, d'ailleurs, le pape François a écrit un petit message sur l'importance de la littérature comme accès à la culture, comme porte ouverte sur des mondes qu'on connaîtra jamais, parce qu'on peut pas vivre toutes les vies.
Puisqu'on parle de culture, laissons-nous embarquer par une pause musicale que vous avez choisie. Thank you. Jean-Sébastien Bach dans I Feel Good, c'est rare, donc c'est précieux.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Quand on est évêque, on a le temps de s'écouter un peu de musique ?
Oui, surtout dans les déplacements.
Ah oui. Mmh. Vous ne faites pas des podcasts de RCF, alors, Radio Chrétienne en France ?
Non, mais je sais que j'ai un ami là, qui m'a dit que comme je fais quelquefois des longs déplacements, ça serait bien de m'y mettre. Voilà.
On vous enverra les liens, Monseigneur. Allez, on continue. Évêque d'un diocèse, Nancy Toul, que vous découvrez, parce que...
Oui, depuis presque 2 ans maintenant.
Presque 2 ans déjà, oui. Ah, je n'ai pas l'habitude de vous prendre, quand vous arrivez, c'est laisser le temps de découvrir.
Oui,
une découverte,
oui.
Ça fait quoi, une découverte de Nancy ?
Eh bien, on sent que c'est marqué par une histoire quand même douloureuse. Les guerres, et puis la fin de la sidérurgie. Ouais. Je trouve que, surtout dans le pays haut, là, ça se sent. Après, Nancy, c'est quand même passionnant, parce que... avec le monde étudiant, surtout le monde étudiant, le monde médical aussi. Enfin, on sent que c'est une ville dynamique, quoi, une métropole dynamique.
Donc ça, c'est l'évêque de terrain. Il y a l'évêque parisien aussi un petit peu, parce que alors je caricature, mais vous avez des responsabilités au sein de la Conférence des évêques de France.
Tous les évêques, on a un petit service à rendre. Parce que
c'est un peu comme Intermarché ou chez Leclerc. On fait partie d'une coopérative, on gère son magasin et en plus on a un intérêt pour la centrale.
C'est ça, on s'intéresse à ce qui se passe.
Alors vous, c'est quoi votre responsabilité?
Eh ben, c'est tout ce qui est conseil, conciliation, emprise, dérive. Il y a tout un travail qui s'est accentué depuis ces dernières années, surtout depuis le rapport de la SIAZ. Mais là, c'est plutôt le versant adulte. Il y a des personnes, même des gens qui se sont engagés avec sincérité dans une communauté, ça casse, et quelquefois il y a eu des relations qui étaient dures, il y a eu de l'emprise, donc il faut réparer, il faut accompagner, il faut écouter les personnes. Alors c'est toute une équipe qui fait ça, et puis souvent maintenant pas en interne avec des personnes compétentes, juristes ou autres.
C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement psychologique, il y a un accompagnement financier aussi.
Voilà, l'idée, c'est de permettre retraite, aux gens mutuelle. De se reconstruire et de ne pas rester sur un échec et sur quelque chose qui les enfonce, quoi.
Donc ça rejoint ce qu'on se disait tout au début sur la notion de liberté. On a la liberté aussi de partir.
Et
c'est
de
pouvoir exprimer cette liberté de la vivre.
C'est-à-dire qu'on est encore plus libre quand on peut vivre, c'est comme dans le couple, hein, quand on peut grandir dans une fidélité... qui traverse les crises et qui permet de... Mais quelquefois, il y a des ruptures aussi.
Alors, le petit Pierre-Yves, il a grandi où ?
Moi, je suis de Rouen, dans le département de la Loire, dans l'orbite un peu de Lyon, où j'ai fait mes études ensuite en droit.
Vous êtes enraciné à Rouen ou c'était
oui,
la famille ?
Oui, j'ai encore un frère, une sœur sur Rouen et une sœur à Lyon.
D'accord. Donc très rapidement, si on a bien entendu au début de l'émission, la vocation, enfin l'envie de...
Disons que j'ai commencé plutôt des études dans le monde juridique. J'avais un père notaire, j'avais des cousins avocats et tout ça. Et ça m'a bien plu. Mais il y avait cette question qui revenait depuis mes 16-17 ans. Et toi, pourquoi pas servir l'annonce de l'évangile ? Donc, ça a pris du temps. Il a fallu qu'après mes années de droit, qu'il y ait le service national en gendarmerie pour que je fasse ensuite le saut.
Alors, on ne peut pas dire que ça vous est tombé dessus, alors ?
Non, je pense à mûrir doucement. C'était un peu laborieux, quand même. J'étais tiraillé. Je voyais bien aussi plein de la beauté aussi de fonder une famille. Donc, il a fallu faire un choix qui se mûrit par des rencontres, par la prière aussi. On dit finalement, Seigneur, que veux-tu que je fasse, hein? Moi, j'aimais beaucoup la figure de saint François d'Assise. Lui aussi, il a eu un choix à faire.
Mais comment avez-vous pu mettre votre confiance dans le Christ ou dans
Alors,
la foi,
c'est vrai que
dans...
ce qui a joué aussi, c'est que j'ai, avec mes deux sœurs, nous avons un frère qui est porteur de trisomie. Et Olivier est un gars génial parce qu'il nous a tous poussés à être vrais et à laisser tomber les masques. Parce que quand il nous demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Bon, alors au début, ça fait 10 fois que tu me le demandes. Mais en même temps, ça oblige à aller un petit peu au cœur. Et il m'a... et encore maintenant, je vais régulièrement le voir une fois par mois à peu près. Et donc, je pense que ça nous a tous poussés, moi en particulier aussi, à un chemin de vérité, quoi. Voilà, y a la vie est fragile, la vie est quelquefois difficile. On n'est pas toujours voilà, au top. Mais c'est dans cette fragilité que Dieu vient nous rejoindre aussi et nous mettre debout. Hein. Ce vient dehors aussi dont on parlait tout à l'heure, c'est ça. C'est à un moment, voilà, je ne veux pas me regarder, je vais vers ceux qui ont besoin et qui attendent qu'un amour leur soit manifesté.
Mais alors, est-ce que l'agir catholique, ce qui vous donne l'envie d'agir, dans votre foi, c'est lié à une fragilité, parce que c'est lié à la fragilité humaine, et c'est lié à une fragilité de l'humanité. Parce que ça fait plusieurs fois que vous évoquez le vient dehors en renvoyant à une fragilité de votre frère.
Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on peut se raconter des histoires, mais il y a quelques années dans notre vie où on peut dire « moi, je m'en sors très bien tout seul ». Mais en fait, notre enfance, et souvent le grand âge, on s'aperçoit qu'on a vraiment besoin des autres. Et finalement, si on est vrai, pendant... Donc, ce n'est pas fragilité au sens « j'ai besoin d'une protection et donc Dieu serait un peu mon parapluie ». C'est plutôt un chemin de vie, quel qu'il soit. Il y a des creux, des bosses, et on s'assoit au bord du chemin et on se dit « bon, ben alors, c'est, tout ça est triste, et alors on se carapate dans un petit coin », ou alors on avance et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, il y a une vraie force à cheminer avec les autres, à porter ensemble les fardeaux, et à découvrir qu'au milieu de tout ça, il y a la joie. Donc, je vois ce que votre question, ça pourrait être la religion un peu comme un petit cataplasme, mais je crois que j'ai jamais eu trop tendance à verser là-dessus. Plutôt, la parole, c'est quand je suis faible que je suis fort, c'est-à-dire que Dieu nous aime avec ce que nous sommes. Nous ne sommes pas en train de chercher une performance, à être au top, à être les meilleurs, mais à être vrais. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de bonheur dans la vie.
Attends, il n'y avait pas de perfidie dans ma question.
Non, mais il y avait la volonté
d'aller creuser quelque chose qui rejoint le message du Christ dans ce qui est écrit dans les évangiles, c'est-à-dire « je me suis fait homme ».
Ben oui, c'est vrai que Jésus, il nous montre comment il va jusqu'au bout de l'amour, et ce n'est pas une mauviette.
Trois dates importantes dans votre vie,
Monseigneur. Alors, c'est le 6 mars 60, c'est mon baptême, parce que je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir, d'être plongé dans la vie de Dieu, avec tout ce que je suis. Et donc, je fête chaque année mon baptême, j'en rends grâce, et j'ai eu la joie de baptiser pas mal d'enfants. Maintenant, comme évêque, je baptise plutôt des adultes, mais je pense que c'est un très beau cadeau.
C'est la même chose.
C'est l'entrée... Oui, en fait, le vrai modèle, c'est le baptême des adultes, quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui librement dit « je désire devenir chrétien, je fais ma profession de foi, et ensuite, j'en rentre dans la vie de disciple ».
Mais alors, pourquoi cette date? Parce que vous vous en souvenez absolument pas.
On m'a raconté, j'ai des photos, j'ai eu la chance d'avoir un parrain et une marraine extraordinaires avec qui j'ai beaucoup dialogué. Ouais. Je pense que c'est de l'ordre aussi de l'invisible. Hein. Il y a quelque chose qui s'est
produit. S'est joué aussi après avec votre parrain et votre marraine.
Oui, c'est vrai. Ils m'ont, surtout ma marraine peut-être encore plus. Chantal, elle était super... Et elle m'a plusieurs fois d'ailleurs bousculé au moment où j'étais étudiant, pas prolongé, mais enfin, où j'arrivais pas encore à faire le pas, elle m'a un peu poussé dans l'eau.
Sur cette question de foi alors?
Oui.
Ouais, typiquement.
Sur la question de, surtout la question de répondre à l'appel pour une vocation.
Mon Dieu, le temps passe vite, pardon pour cette expression, mais deuxième date importante dans votre vie?
La deuxième date, c'est, je mettrai 2014-2023, parce que ce sont... Les deux fois où j'ai été appelé pour être évêque, et en 2014, c'était pour la Drôme, pour le diocèse de Valence. Et en 2023, c'est pour venir ici, en Lorraine, pour Nancy et Toul. Donc, c'est un appel qui fait carrément un peu tanguer. Hein. J'avais déjà pas mal d'années de vie de prêtre. Mais là, c'est une nouvelle mission pour, pour un peuple plus large. Et oui, j'ai dit oui parce que j'ai toujours dit oui, mais avec une part d'inconnu, quoi.
Mais qu'est-ce qui vous prend de dire oui pour être le représentant quand même d'une institution? Attendez, laissez-moi poser ma question. Pardon. D'être le représentant, parce qu'il faut quand même que je vous pose une question qui pique un peu, là, on arrive à la fin, d'une institution quand même qui fait partie des plus difficiles à être représentée, quoi. C'est celle qu'on attaque le plus facilement dans notre société contemporaine. Quelle idée?
J'ai l'impression que les hommes politiques sont pas mal attaqués.
La politique, les médias, ça fait partie des trois institutions.
Non, mais en fait, moi, je ne vois pas ma mission comme d'être le porte-parole d'une institution. Bien sûr, l'Église a son aspect institutionnel parce qu'elle est dans la patte humaine, parce qu'elle a une histoire mouvementée, pas toujours reluisante. Mais en même temps, c'est l'épouse du Christ. Donc pour moi, c'est l'Église, elle est sans cesse en train de naître. Je suis pas le gardien d'un musée où il faudrait défendre des valeurs. Non, je suis en train comme pasteur de voir naître un nouveau visage d'Église, des nouveaux baptisés, des nouveaux.
Et sur quelle descente vous aimeriez qu'elle se penche cette Église?
Ah ben, je pense qu'elle a besoin de sans cesse se réformer pour être justement plus évangélique et pour que ce que Jésus dit et pratique sur les pauvres, les bras cassés, etc. Eh bien, nous le vivions vraiment. Et je pense que là-dessus, il y a toujours des conversions à vivre.
Troisième date importante dans votre vie.
Et la troisième date, c'est aujourd'hui. Parce que j'ai la joie de vous rencontrer, Christophe, et de dialoguer comme ça, de lancer une bouteille à la mer à travers les ondes positives de cette radio. C'est aujourd'hui que j'ai à répondre à l'appel du Seigneur avec les rencontres de ce jour. Et je dirais la même chose demain, quoi. Je me sens vraiment bousculé pour aller sans cesse à la rencontre et ne pas être un gestionnaire. Et je crois que vraiment j'aime beaucoup les prêtres de Meurthe-et-Moselle parce que je les trouve très proches de la vie des gens et tout ça, donc pas seulement sur un registre institutionnel, quoi.
Monseigneur, on parle des prêtres. Eh ben, merci d'avoir participé à cette émission. Je voudrais aussi rendre hommage et puis dédier cette émission à une petite sœur, mais une grande dame, sœur Marie Bernadette, qui a pendant plus de 60 ans a été la religieuse qui a accompagné les prêtres du diocèse dans sa maison de retraite. Elle est décédée il y a quelques jours. Et de tout cœur, merci sœur Marie Bernadette pour tout ce que vous avez fait pour les prêtres et pas seulement les prêtres de ce diocèse.
Merci.